Bonjour, ici le podcast Carrefour des sciences humaines. Je me présente, je me nomme Alexander Darlington et je suis en compagnie de Christian Stoya. Bonjour.
Bonjour.
Christian Stoya a étudié en philosophie à l'Université de Montréal et est présentement professeur de philosophie au Cégep de Saint-Jérôme. Il est un interviewé parfait étant donné qu'il a une base dans l'histoire de la Grèce antique.
Oui.
Donc aujourd'hui, on va parler de la Grèce et de la naissance de la philosophie. Donc, pour la première question, tout d'abord, quel est le lien entre la philosophie et la Grèce antique?
Oui, quand on parle de philosophie, déjà, on est catapulté vers le passé et ce que tu as appelé la naissance de la philosophie. Déjà, on est chez les Grecs. Hein. Philosopher, c'est une invention de cette culture grecque, hein, où ça parlait grec, où c'était le climat méditerranéen, comme par exemple Athènes. Athènes, on dit souvent, c'est vraiment la première capitale mondiale de la philosophie. C'est là qu'elle va naître, c'est là qu'elle va aussi donner suite à des institutions. Il va y avoir des écoles de philosophie à Athènes. L'une des plus connues, c'est l'Académie de Platon. Donc, ouais, la philosophie, c'est grec dès l'origine.
Ok, parfait. Bon, parlons maintenant de Socrate, qui est le père fondateur de la philosophie. Quel était son point de vue concernant la société?
Bonne question. C'est vrai qu'on dit souvent que Socrate, comme le père ou le grand-père de la philosophie, quel était son point de vue sur les choses? Difficile à dire. Il n'y a rien écrit. Il n'a pas laissé aucun livre. Il n'a jamais pris, non plus, il n'a jamais pris la parole dans l'espace public à Athènes. Vraiment affirmer des opinions, prendre parti. Et c'est ça qui était assez intéressant. Socrate, c'était un homme de discussion. Socrate, c'est quelqu'un qui, aux abords de l'agora ou un peu partout, il est toujours vu en train de discuter avec des citoyens, discuter avec des intellectuels, discuter avec des professeurs, des savants. Et sans dire la vérité à personne, sans donner de leçons à personne, il amenait les autres à se poser des nouvelles questions. On peut présenter Socrate comme l'espèce de mauvaise conscience, hein, de la démocratie à Athènes, la mauvaise conscience de d'Athènes, où on commence à douter de ce qui jusque-là avait l'air le plus évident, le plus certain. Socrate qui introduit l'inquiétude, hein, dans l'opinion publique, ou qui introduit le doute chez ceux qui prétendent le plus savoir. Donc, c'est un drôle de père pour la philosophie, parce que c'est comme un zéro. Hein, ouais. Et il dit, tout ce que je sais, c'est que je connais rien. Mais cette espèce de naïveté-là va amener les autres à rendre des comptes.
Et à penser davantage.
Oui, à penser plus loin, à penser davantage, oui.
OK. Donc, on a parlé des questionnements. Pouvez-vous me parler de la méthode socratique et qu'est-ce que cela permettait?
Oui, si Socrate avait une méthode, appelons ça ironie. Qu'est-ce que c'est l'ironie de Socrate? C'est son air très naïf, l'air ignorant avec lequel il aborde les autres. Et il se présente aux autres en disant, « Toi, tu sais, moi, je connais rien. » Donc, il y a juste cette petite question-là que je pourrais te poser. Et déjà, il place son interlocuteur, hein, c'est peut-être très méthodique, il place son interlocuteur dans la situation de celui qui en sait plus que les autres. Et ce faisant, son interlocuteur s'expose à plein de critiques, à plein de questions. Et donc, on peut imaginer aujourd'hui Socrate, ce serait qui? C'est celui qui approche le politicien puis qui dit « Hey, tu utilises toujours le mot terrorisme, qu'est-ce que tu entends par là exactement? » Ou ce serait celui qui irait voir le cinéaste puis dirait « Hey, ton dernier film était super, mais j'ai rien compris. Hein? Pourrais-tu m'en parler un peu? Qu'est-ce que c'est le cinéma? » Donc, de grandes questions comme ça, mais sous couvert d'ignorance, sous couvert de bêtises.
Okay. OK, donc Socrate se fait condamner à mort. Mais quelles sont les raisons?
Oui, t'as l'air bien informé. Oui, Socrate qui est, bizarrement, hein, je vous ai dit, c'était la mauvaise conscience d'Athènes, et peut-être qu'on a essayé de se donner bonne conscience en s'en débarrassant. Un des événements importants concernant la philosophie chez les Grecs, c'est le procès de Socrate. Socrate est accusé de deux choses. Il est accusé de corruption de la jeunesse, c'est-à-dire amener les jeunes hommes à placer leur confiance dans des idées dangereuses, dans des idées peut-être erronées. On l'accuse d'être un mauvais maître. On l'accuse d'être celui à cause de qui la jeunesse est en train de mal tourner. Donc déjà, on remarque que la philosophie doit se défendre dans ce procès-là. Socrate doit se défendre. Donc, premier chef d'accusation, on a dit la corruption de la jeunesse. Deuxième chef d'accusation, on lui reproche non pas d'être un athée, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais on lui reproche de rire des dieux. On lui reproche de ne pas prendre la religion au sérieux et de faire tout pour aller à l'encontre de la religion. Et devant ces deux chefs d'accusation-là, très bizarrement, Socrate, oui, il va se défendre, il va livrer un discours devant des milliers de personnes, devant ses juges, mais on dirait qu'il fait tout pour perdre son procès. Il est très, encore une fois, ironique. On dirait qu'il ne tient pas à gagner à tout prix. Et peut-être dans ce procès-là, il a continué justement le travail qui avait commencé de façon plus informelle, à savoir inquiéter, déranger, non pas être celui qui doit répondre, mais être celui qui questionne, qui interroge.
Ok. Vous avez parlé des dieux, mm-hmm. puis de Socrate.
Ouais.
Donc, ça m'a fait questionner, est-ce que la religion, selon les philosophes, est-ce que c'est important selon les philosophes ou c'était complètement négligé?
Oui, bonne question. C'est le rapport entre la philosophie et la religion. Déjà, chez les Grecs, ce rapport-là est un peu compliqué. C'est pas pour rien que Socrate, un des deux chefs d'accusation, on lui reproche de pas être assez religieux, hein, pas être assez fidèle au dieu à l'honneur à Athènes. Ben, il y a aucun philosophe chez les Grecs, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, qui a une attitude à l'égard de la religion qui est facile. Dès Socrate, on a quelqu'un qui dit prendre au sérieux la religion, mais qui a peut-être sa propre définition de Dieu, sa propre définition du sacré, sa propre définition de la religion. Et est-ce que c'est ça qui a mal passé à Athènes? Peut-être.
Okay.
Peut-être. Mais reste que la philosophie, chez les Grecs, cherche à prendre une distance à l'égard de la religion. C'est
okay. sûr. Okay. Comment est-ce que les citoyens percevaient la philosophie? Est-ce que c'était positif? Il faut considérer qu'ils ont voté pour la mort de Socrate.
Oui, bien dit. Hein? Socrate a été jugé coupable. Excès de Socrate, il est condamné à mort même, donc pour crime grave. Et dans un procès qui est tout à fait normal, c'est-à-dire qui est tout à fait démocratique, c'est pas sous la dictature que le philosophe ici périt, c'est en pleine démocratie. Donc, on peut dire que l'opinion publique peut avoir souvent du mal avec des gens comme des philosophes qui ont comme rôle d'avoir un peu l'esprit critique, d'être un peu les lanceurs d'alerte, d'être un peu les empêcheurs de tourner en rond. Je mentirais si je disais que les philosophes étaient des stars à Athènes chez les Grecs. Non, c'est un phénomène rare et un phénomène, on pourrait dire, marginal. Hein? Et c'est pas pour rien que suite au procès de Socrate, quelqu'un comme Platon, qui a été l'ami de Socrate, le compagnon de Socrate, Platon ne va pas se lancer en politique là, pour réparer les choses. Au contraire, il y a un repli vers on va faire de la philosophie un peu plus entre quatre murs, on va faire de la philosophie un peu plus à travers des textes où on ne dit pas officiellement ce qu'on pense.
Donc, okay.
Réflexe de prudence.
Ok. Donc, suite à la mort de Socrate, Platon écrit principalement sur Socrate, donc qu'est-ce qu'il fait après sa mort? Est-ce qu'il publie encore? Est-ce qu'il...
Oui, ben on va dire, Platon, c'est après la mort de Socrate qu'il se met à écrire. Est-ce qu'il écrit sur Socrate? Pas vraiment. Il écrit avec Socrate. C'est-à-dire, il met en scène ce personnage-là, Socrate, en train de discuter, comme il le faisait avant, mais c'est du nouveau. Hein? Platon avait pas son magnétophone, son enregistreuse, comme présentement, pour enregistrer tout ce que Socrate a dit. Au contraire, Platon va faire revivre Socrate à travers des discussions, des nouvelles idées, tout ça. Et mine de rien, Platon va avoir écrit à peu près 20 livres qui se présentent comme des dialogues, des conversations socratiques, travail de fiction. Et bizarrement, l'image qu'on a de Socrate, nous, c'est beaucoup le fantasme de Platon. C'est-à-dire, c'est à travers ses textes à lui qu'on a accès à ce gars-là, Socrate, qui de toute façon n'a rien écrit. Fait qu'on ne peut pas trop savoir.
J'ai une question à propos de la démocratie. Moi, j'aimerais savoir s'il y avait de la corruption. Avant la démocratie, c'était les aristocrates qui détenaient le pouvoir. Par ailleurs, la démocratie a permis aux citoyens de participer à la vie politique.
Ouais.
Mais lors de la démocratie, avait-il des citoyens qui s'imposaient davantage comme les aristocrates dans leur temps?
Ben, la philosophie elle-même a senti, dès le début, ce danger-là qu'au cœur de la démocratie, le droit de parole serait pas si égal que ça. Ceux qui parlent mieux que d'autres deviennent des citoyens plus importants, hein, plus puissants. Et donc, un philosophe comme Platon, en particulier, a senti que, par exemple, tous les spécialistes de communication, ceux qu'on appelait les orateurs, ceux qu'on appelait les maîtres de rhétorique, pourraient débalancer ou rendre inégales ces relations-là politiques entre les citoyens qui, en principe, sont parfaitement égalitaires. Dans la démocratie, tout le monde a droit à son opinion, tout le monde a droit de parole, tu peux lever la main puis essayer de nous convaincre. Mais Platon, dès le début, même chez Socrate, il y a déjà cette conscience-là, à savoir, il y en a qui sont des sorciers des mots et qui sont capables de nous ensorceler avec des beaux discours. Je connais bien l'archive des textes de philosophie.
Ouais.
Ça, c'est plus une question historique. Mais ce serait surprenant que non.
Parce que la base de la question, c'était vraiment de savoir si les philosophes s'imposaient davantage dans la société ou est-ce qu'ils étaient plus à part puis faisaient juste penser pour eux.
C'est une excellente question. Mais moi, j'aime imaginer le philosophe comme personnage. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Le philosophe qui n'est pas celui qui va prendre parti devant tout le monde, en plein jour, sous les caméras, sur la scène publique, etc. Mais c'est pas non plus le sage qui est comme un ermite dans sa tanière, puis qui dans ses pensées. C'est pas le roi bibliothèque qui est toujours dans ses livres non plus. Disons un mi-chemin entre les deux. Le philosophe a besoin de l'action, mais il veut pas être dans l'action.
Il observe l'action.
Il observe, oui, exactement. C'est justement pourquoi Socrate, comme père de la philosophie, c'est une belle façon de nous raconter l'histoire de la philosophie, parce que Socrate, il brillait par son absence sur la scène publique, mais c'est pas celui qui est entièrement dans le privé. C'est celui qui est aux abords de l'agora. Et encore aujourd'hui, les philosophes, c'est peut-être surtout là que ça situe un rôle critique par rapport à la politique, mais sans en faire ouvertement, directement.
Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de philosophes aujourd'hui qui se sont basés sur les écrits de Platon?
Ben, tous les philosophes prennent au sérieux Platon. Il y en a que ça va être pour renouveler les idées de Platon, il y en a d'autres que ça va être pour exactement l'inverse, à savoir renverser les idées de Platon. Mais en même temps, il y en a qui ont dit « Toute la philosophie n'est qu'une série de notes de bas de page en bas des textes de Platon. » C'est probablement exagéré, mais ça dit vrai quand même. Il y a quelque chose de vrai. Et c'est surtout le cas pour Socrate.
Okay.
C'est-à-dire, un philosophe aujourd'hui qui se reconnaîtrait pas un peu dans le visage de Socrate ou dans le masque de Socrate, ben, c'est pas un philosophe.
Ok, on a parlé des fondateurs de la philosophie grecque, dont Socrate, Aristote, Platon. Est-ce qu'ils ont influencé un peu la culture d'aujourd'hui?
Oui, ça c'est sûr. C'est parce que quand on a affaire à des géants comme ça de la pensée, on est beaucoup plus dans leur pas qu'on se l'imagine. Platon invente le mot philosophie, par exemple. Il est le premier à définir ce qu'on appelle philosophie. Bon, il appelle ça philosophia. 2500 ans plus tard, aujourd'hui, ben, il y a de la philosophie. Mais autre chose aussi, le nom de l'école de Platon, c'était Academia, l'Académie. Ouais, écoutez, même dans la culture populaire, il y a des émissions comme Star Academy, sans qu'on s'en rende compte. Bon, c'est pas très philosophe, c'est pas très philosophique, mais c'est parce que les philosophes ont une façon de penser qui est assez souvent délicate, nuancée, forte aussi. Et ce serait vraiment se faire un beau compliment que de dire, ben nous, aujourd'hui, on pense exactement comme eux. Non. Non. Difficile, impossible. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'idées qui nous viennent de cet héritage-là, philosophique grec, et qui sont là aujourd'hui. Pensez au fait, je ne sais pas moi, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle politique. Politique, c'est un mot qui nous vient du grec ancien, polis, hein? P-O-L-I-S. Je sais pas, on a des cours de théorie. Théoria, c'est un mot inventé à toute fin pratique par Platon. C'est comme si on parle grec sans s'en rendre compte, et nos mots sont chargés d'un sens qui a été travaillé, entre autres, par des gens comme Platon, mais par d'autres aussi.
Donc, ça répond très bien à mes questions. Merci beaucoup, Christian Soya.
Ça fait plaisir.